S'il fallait noter le CNRD sur 10, j'espère que vous allez lui répondre à cette question. Ce n'est pas une autre question du piège. Vous lui aurez donné combien à ce stade?
Je donnerais à ce stade au CNRD un 7 sur 10. Un 7 sur 10. Oui. Et
D'accord.
ce 7 sur 10, c'est pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire
D'accord.
que nous sommes dans une transition de réforme. La réforme n'est pas facile. Si la réforme était facile, vous comprenez que les gouvernements précédents que nous avions.
Merci, Imam, vous êtes sur Africa Midi, dans l'émission Savoir et comprendre. Nous sommes samedi 16 mars 2024. Au micro, Ibrahim Ahmed Ba, il est 17 h passées de 2 minutes à Lyon, c'est en France. Je rappelle, pendant la période de Ramadan, les émissions passent à 17 h, heure de Paris, c'est 16 h, temps universel, 12 h à New York et à Ottawa. Dans cette première partie de cette émission, nous avons comme invité Monsieur Mamadou Houri Diallo. Il est expert en finance. Il est aussi président du parti LDRG. Et en seconde partie, on aura une journaliste depuis la Guinée, Diana Diallo, pour analyser l'actualité de la Guinée, l'actualité politique actuellement. Vous savez, nous vivons la transition. Il y a eu une dissolution du gouvernement. Il y a eu également la nomination du nouveau gouvernement de Baoury. Et vous avez aussi d'autres sujets, hein, la crise énergétique, les problèmes sociaux, des manifestations. D'ailleurs, ce sont des sujets qu'on va aborder avec notre premier invité, la gestion de la transition par le CNRD. Monsieur Mamadou Diallo, si vous m'entendez bien, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi.
Bonsoir, Monsieur Ba, et bonsoir à l'ensemble de vos fidèles auditeurs.
C'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle, nous sommes en direct sur africamidi.com, également sur le live Facebook. Je rappelle les auditeurs, il y aura un live, il y aura un live le soir de rediffusion de cette émission, puisque techniquement, on n'a pas pu faire le live direct du côté TikTok. Je m'excuse par rapport à ce désagrément. Monsieur Diallo, c'est un plaisir. J'ai beaucoup de questions pour vous. Je rappelle, hein, donc, ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu sur Africa Midi. C'est un plaisir. Hein. Merci d'avoir accepté de revenir et puis le retour.
C'est un plaisir d'être sur votre plateau, Monsieur Ba. Effectivement, vous aviez totalement mis de côté votre ami et cher frère, mais ce n'est pas grave. Vu que c'est le Ramadan, je vous pardonne.
Il n'y a pas de souci, c'est le mois de pardon. Vous avez bien choisi. Il n'y a pas de souci, je vais me rattraper. Je vais me rattraper. Alors, Monsieur Diallo, on y va. Depuis 2 ans, nous avons le CNRD à la tête de la Guinée. Ma première question, avant d'aller dans les commentaires, êtes-vous satisfait ou non de la transition jusque-là?
Alors, merci beaucoup pour cette première question. Je dois commencer par vous dire, Monsieur Ba, que la question que vous venez de poser, naturellement, c'est une question piège. On ne peut pas répondre par oui ou non, par satisfait ou non satisfait. Ce que je peux dire, c'est que dans un premier temps, il faut rappeler que nous sommes dans une transition de refondation et de réforme. J'invite chacun de vos auditeurs à très vite ouvrir la charte de la transition. Le chapitre 1er et le titre 2, il dit que la mission de la transition, c'est de refonder l'État et d'engager des réformes dans tous les domaines. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que effectivement nous avons engagé des réformes depuis que le CNRD est à la tête de l'État? Je réponds par oui. Dans plusieurs domaines, des réformes fondamentales et très importantes ont été engagées. Les réformes sont aujourd'hui à la phase de gestion. Je prends la fonction publique. La fonction publique aujourd'hui, nous avons éradiqué l'effectif de la fonction du fichier de la fonction publique. Nous avons fait en sorte de mettre un terme à un certain nombre de pratiques. Nous sommes à la phase de biométrisation du fichier de la fonction publique et bientôt un concours sera organisé pour le recrutement d'un certain nombre d'agents de la fonction publique. Donc ça, c'est parfait, c'est formidable. Ça n'avait pas été fait depuis plusieurs années et le rapport du FMI de janvier 2023 nous dit que le fichier de la fonction publique n'a jamais été aussi bien, n'a jamais reflété aussi bien la masse salariale du pays que cette fois-ci. Donc, le travail est bien fait. On peut parler du côté social, sur le plan de l'éducation. Nous avons commencé dans un premier temps dans une situation où l'école publique guinéenne était totalement en faillite, mais véritablement en faillite, au point que certains membre de l'ancien gouvernement avait suggéré d'avoir des années blanches pour pouvoir réformer le système éducatif de notre pays. Donc, à l'arrivée du CNRD, des actions majeures ont été prises, que ce soit sur le plan de l'enseignement préuniversitaire, formation technique et professionnelle ou de l'enseignement supérieur. Nous avons vu un relèvement du niveau d'éducation et un véritable changement qualitatif au niveau du système éducatif de notre pays. J'étais récemment à Guinée et je parlais avec des enseignants et des professeurs qui m'expliquaient que aujourd'hui l'école publique guinéenne est beaucoup mieux encadrée que les écoles privées. Je répète, aujourd'hui l'école publique guinéenne est beaucoup mieux encadrée que les écoles privées. Donc sur le plan du système éducatif aussi, il y a un fondement qui est là. À présent, naturellement, il y a beaucoup de choses à faire. Un gouvernement élu avec un programme bien connu et bien ficelé peut aller beaucoup plus loin parce que ce travail de refondation a été fait sur le plan du système éducatif. On peut parler de la moralisation de la vie publique. Alors, naturellement, ça ne peut pas être parfait, on est d'accord. Mais écoutez, l'organisation Transparency International vient de publier son rapport. L'organisation Transparency International, on ne peut pas l'accuser d'être de l'opposition ou du pouvoir. Ils disent que la Guinée a fait des bons en avant, des bons de plus de 8 à 10 points en avant. On n'avait pas connu ça depuis plus de 10 ans dans notre pays. Parce que tout simplement, des efforts sont là, une volonté politique est là, de moraliser la gestion publique dans notre pays. Donc on peut ainsi parler de tous les domaines qu'il faut pour savoir est-ce que des réformes ont été engagées. Maintenant, nous enclenchons la troisième phase de cette transition. Mm-hmm. C'était la phase de gestion. Maintenant, nous allons vers la phase de clôture de ces réformes-là. C'est une phase fondamentale. Effectivement, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, on pourrait en parler. Donc, c'est pour vous dire que pour répondre à votre première question,
oui,
je suis satisfait. Il y a des réformes qui sont engagées. Il y a des réformes qui sont en cours et il y a des réformes à engager. Je surveille très fortement la réforme du PNRAVEC. Ce recensement à caractère administratif à vocation d'état civil. Mmh. Il est très important pour notre pays. Donc ça, c'est une réforme qui a sa face de terrain. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir conduire cette réforme à terme? J'observe ça de manière très vigilante. Est-ce
D'accord.
qu'on va pouvoir aller au terme de la réforme constitutionnelle dans notre pays? C'est quelque chose de très important. Donc, vous voyez, la réponse à votre question, c'est pour tout simplement dire, premièrement, je suis satisfait des réformes qui sont engagées.
Okay.
Il y a d'autres réformes qui viennent. J'aimerais qu'elles aillent au bout. Maintenant, naturellement, j'apporte le soutien. Mon parti apporte son soutien aux réformes engagées et aux réformes engagées pour que, au bout de cette transition, qu'on n'ait plus à revenir encore 10 ans plus tard à parler de la même chose.
D'accord. Vous êtes satisfait. Je dirais même très satisfait à vous entendre. Je voudrais enchaîner avec la même logique.
Je dirais pas très satisfait. Ok. Très
mais en tout cas, je vous entends. J'entends quelqu'un qui semble très satisfait, M. Diallo. Je vous dis, c'est beau. Le ressenti, hein. Je vous laisse le soin de revenir dessus.
D'accord. Je vous le concède.
Bah, dites-moi, s'il fallait noter le CNRD sur 10, j'espère que vous allez répondre à cette question. Ce n'est pas une autre question du piège.
Oui.
Vous lui aurez donné combien à ce stade?
Je donnerai à ce stade au CNRD un 7 sur 10. Un 7 sur 10, oui.
D'accord.
Et ce 7 sur 10, c'est pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire
D'accord.
que nous sommes dans une transition de réforme. La réforme n'est pas facile. Si la réforme était facile, vous comprenez que les gouvernements précédents que nous avions connus auraient réformé le pays.
Non, je vous ai compris. Effectivement, je vous ai compris. Je voudrais enchaîner justement dans la logique justement de... Je vais vous donner l'occasion d'argumenter. Vous avez parlé du système éducatif, vous avez parlé de la fonction publique. Vous avez même dit que l'école publique est aujourd'hui beaucoup mieux encadrée que les écoles privées. Pour un auditeur qui vous écoute aujourd'hui, M. Diallo, qui connaît bien le système éducatif, qui est passé par là, on est tous passés par là, donnez-nous deux ou trois exemples pour que la personne puisse être réconfortée dans votre argumentaire.
Premier exemple, nous allons parler de l'enseignement préuniversitaire. À l'arrivée du CNRD, comme je vous disais, la situation était catastrophique. La première année de gestion du CNRD, le ministre Awing, qui était là, avait pris des mesures si drastiques que c'est à peine si on avait eu des admis dans notre école publique aux examens nationaux. Donc c'était la déprime nationale, vous comprenez? Mais pour quelqu'un qui veut réformer un pays, ces mesures sont absolument nécessaires pour connaître le niveau du système éducatif de son pays, pour savoir d'où partir. L'année qui a suivi, parce que maintenant nous connaissions le niveau et nous avions apporté le soutien qu'il faut aux enseignants et aux étudiants, Le niveau de succès a été meilleur que l'année précédente et les étudiants ont été récompensés publiquement pour ceux qui ont réussi. Donc, sur le plan de l'enseignement pré-universitaire, en matière de réforme, j'ai envie de vous dire que les mesures nécessaires ont été prises, non pas simplement parce qu'on a serré les examens, mais parce que tout simplement les moyens ont été mis au service du système de l'enseignement préuniversitaire. Tout à l'heure, vous repassez l'une des émissions où l'un des conseils nationaux parlait du budget. J'ai révisé le budget de l'État, le plus récent budget de l'État. Ça fait 3 années consécutives que le budget du système éducatif de notre pays augmente. Et quand je dis le budget augmente, ce n'est pas le budget du personnel, comme les années précédentes. Mm-hmm. Je vous parle ici du budget d'investissement pour chacun des segments du système éducatif, de chacun des segments de notre système éducatif. Donc, il y a une volonté politique qui est là de remettre sur pied notre système éducatif. Maintenant, naturellement, il faut avoir à la tête de ces départements des acteurs capables d'utiliser ce budget pour faire en sorte que le système éducatif soit effectivement sur la bonne voie. Donc, voilà un certain nombre d'exemples. On peut parler de l'enseignement préuniversitaire. Pardon, on peut parler de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mm-hmm. Le budget de l'enseignement technique et de la formation professionnelle n'a jamais été aussi important qu'au cours de cette période de transition. Et le ministre Alpha Bakar Bari a fait un travail remarquable pour mettre ce ministère sur la voie, pour effectivement faire en sorte qu'on puisse offrir de véritables alternatives qui sont aujourd'hui portées sur du concret. On n'est plus sur la théorie. Si les jeunes Guinéens aujourd'hui qui veulent apprendre le métier viennent dans les écoles de l'enseignement technique et professionnel, ils ont aujourd'hui sur la table ou dans les ateliers du concret, du matériel qui les permet d'apprendre. Ça, c'est quelque chose de qualitatif et c'est quelque chose d'extrêmement important. L'enseignement supérieur avec Dr Diaka, ce n'est pas beaucoup de trop en parler parce que nous avons vu par nous-mêmes le niveau, le changement drastique que nous observons au niveau de la qualité de la gestion de l'enseignement supérieur aujourd'hui dans notre pays. Je vous dis qu'il y a moins d'un mois, j'étais en Guinée. J'ai passé beaucoup de temps avec des enseignants au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Et ils m'ont expliqué qu'effectivement, aujourd'hui, l'ordre est revenu dans l'enseignement préuniversitaire dans notre pays. Ce n'est plus de la paix. Il y a de l'ordre. Les étudiants respectent l'autorité des enseignants et l'autorité des proviseurs désormais. Et la qualité de l'enseignement est là. Les inspecteurs de l'éducation font leur travail aujourd'hui au niveau du système éducatif. Donc voilà autant d'exemples, monsieur Ba, pour vous dire que si aujourd'hui, par exemple, au bout de cette transition, un président issu, par exemple, de mon parti, la Ligue des démocrates réformistes de Guinée, est élu, il ne va pas avoir besoin de faire ce qui a déjà été fait par le CNRD, ce travail de refondation. Donc il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour mettre en œuvre maintenant des projets beaucoup plus vastes, beaucoup d'accord. plus ambitieux, beaucoup plus organisés.
Parlons d'autres secteurs. Puisque vous l'avez même rappelé, c'est une transition de refondation et de réforme. Parlons du secteur de la sécurité. Parlons de la question des libertés, du droit, de la justice. Est-ce que vous avez la même satisfaction? Je voudrais vous entendre sur ce secteur-là.
C'est une très bonne question, M. Ba. Alors, je vais prendre la question dans son ensemble et dans son entièreté. Premièrement, parlons de la justice. À l'avènement du CNRD au pouvoir, nous connaissons tous l'état de la situation en matière de droits de l'homme dans notre pays. Ce n'est pas la peine d'en revenir. J'avais moi-même publié à l'époque un rapport qui s'appelle le rapport Roger Bamba, qui détaille effectivement le caractère du régime, le caractère répressif du régime qui était en place. Donc ça, c'est d'où nous venons, encore une fois. À l'arrivée du CNRD au pouvoir, qu'est-ce que nous avons observé? Premièrement, et ça parle aussi de l'autorité de l'État. Le CNRD a fait le choix de rétablir l'autorité de l'État grâce à la justice. Premièrement, on a commencé enfin à juger les crimes contre l'humanité de septembre 2009. Qui aujourd'hui en Guinée, qui peut dire que ce n'est pas un effort ou une volonté politique qui effectivement qui est avantageuse ou bénéfique pour le respect des droits de l'homme dans un pays lorsqu'on décide de juger les seuls crimes contre l'humanité que le pays a connus? Donc voilà quelque chose de fondamental, c'est un acquis. Et je peux vous dire que le tribunal qui juge aujourd'hui les crimes contre l'humanité de septembre 2009, il fonctionne entièrement, malgré les promesses de nos partenaires, il fonctionne entièrement sur le budget du ministère de la Justice. Donc c'est une volonté politique qui veut qu'on évacue ce sujet lourd pour les citoyens guinéens et qu'on reprenne enfin à vivre, à pouvoir, pour qu'on puisse vivre ensemble de manière harmonieuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout à l'heure, je parlais de budget. Hein? Au cours de la transition, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, c'est la même chose. Le budget du ministère de la Justice augmente année après année. Et le budget qui augmente, ce n'est pas simplement le budget du personnel, c'est le budget d'investissement à ce niveau aussi. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que nous avons une volonté politique de faire en sorte que la justice dans notre pays, le système judiciaire dans notre pays, occupe au fur et à mesure un rôle important dans le cadre institutionnel et dans la gouvernance de notre pays. Ça, c'est la deuxième chose. D'accord? Troisièmement, parlons de la moralisation de la vie publique, puisqu'il y a un lien avec le système judiciaire et la question des droits de l'homme. Depuis que moi je suis guinéen, je n'avais jamais vu d'avoir des acteurs des acteurs publics du niveau de ministre, de directeur généraux, du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, répondre de leur gestion devant une juridiction de notre pays. Jamais. Pourtant, le CNRD, à son arrivée, l'une des premières actions phares qui a été prise, c'est la mise en place de la CRIEF. Nous avons vu donc circuler au cours des trois dernières années tout le quota des acteurs qui ont participé à la gestion de leur pays ces dernières années. Vous, quand vous regardez l'état de ce pays, M. Ba, vous pensez que personne n'a des comptes à rendre? Pensez-vous vraiment que si vous regardez l'état du pays aujourd'hui, personne n'a des comptes à rendre de cette situation? Le CNRD a donné les moyens au système judiciaire de faire en sorte que ceux qui ont géré le pays et qui ont des dossiers opaques, qu'ils viennent clarifier la gestion de ces dossiers-là devant les juridictions de leur pays. Ça, qui va dire que ça, c'est pas une avancée? Tout acteur qui est préoccupé de la moralisation de la vie publique sait que ça, c'est une avancée. Et tous les rapports le disent. Celui de Transparency International, celui du Fonds monétaire international, disent que la Guinée a fait des pas de géant en matière de moralisation de la vie publique. Est-ce que c'est parfait? Non, ce n'est pas parfait. Et ça prendra du temps avant que ça s'améliore encore plus. Mais c'est un pas en avant en matière de moralisation de la vie publique et de respect des droits des citoyens guinéens. Vous m'avez parlé de sécurité aussi. Effectivement, en matière de sécurité, il y a une dichotomie que je n'ai pas bien compris. Vous comprenez, même moi, je n'ai pas compris une certaine dichotomie, c'est que si je regarde le budget de l'État, je vois que le budget du ministère de la Sécurité diminue année après année depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Il y a quelques mois, j'avais fait une suggestion aux autorités en place, j'ai dit que ça ne fait pas de sens au moment où on a de plus en plus besoin de nos services de sécurité. Quand je parle de services de sécurité, je parle de gendarmerie et de police. Au moment où on a besoin de ces gens-là pour justement faire appliquer la loi et aussi gérer les humeurs de certains acteurs réactionnaires qui ne sont pas favorables à la transition dans le cadre de respect de toutes les réglementations internationales en matière de maintien de l'ordre, que ça ne fait pas de sens qu'on réduise le budget du ministère de la Sécurité. Ça, je vous le concède. D'accord.
D'accord. Contre,
vous voyez bien que dans tous les autres
domaines, je voudrais qu'on aborde.
Il y a une amélioration notable qui n'est pas négligeable et qui mérite d'être encouragée.
D'accord, M. Diallo, j'ai l'impression que vous ne voulez pas aborder les questions qui fâchent. On ne va pas parler de la justice. Je vais poser des questions concrètes. Monsieur Diallo, aujourd'hui, il y a une quarantaine de morts à travers les manifestations. Ça veut dire que le régime précédent, c'est un régime répressif. Est-ce que l'autre celui-ci ne l'est pas encore? Et j'enchaîne. Comme ça, je peux vous aider peut-être à aborder dans ce sens-là, aborder cet aspect de la question. Il y a eu une quarantaine de morts parmi les manifestants. Doumbouya, quand il est venu, général Doumbouya aujourd'hui, avait dit que la justice sera la boussole. Il avait dit qu'il n'y aura pas de mort. Ça suffit, les morts. Il est même parti au cimetière de Bambuto. Tout le monde a dit, les gens ont applaudi, les gens étaient enthousiastes. Une quarantaine de morts. Et aujourd'hui, même pour la manifestation de les populations, je prends l'exemple du Kinshasa, vous réclamez l'électricité, il y a eu des morts à travers les manifestations. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison et qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison, qui ne sont pas encore jugés, qui sont arrêtés, et puis la procédure. En fait, leurs droits n'ont pas été respectés. Ils sont dans une situation d'inconnu. Vous avez même parlé de la CRIEF. C'est vrai au niveau de la CRIEF. Il y a les membres du régime qui étaient là hier. Beaucoup sont
Alors,
aujourd'hui, ils sont en train de répondre devant la CIR. Mais qu'on respecte la, comment? Qu'on respecte la procédure. Je voudrais en vous entendre sur ces questions-là.
Oui, alors, c'est cela. C'est-à-dire que c'est très important d'éviter des raccourcis intellectuels. C'est très important, d'accord? Notre pays a besoin avant tout d'apaisement. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une transition de refondation et de réforme. La réforme est difficile. Et quand on arrive à la phase de gestion des réformes, il est très important que l'ensemble des acteurs politiques qui sont soucieux de l'avenir du pays puissent appeler les populations au calme et à l'apaisement. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous observons chez nous. C'est très dommage. Ce n'est pas ce que nous observons parce que tout simplement, alors qu'au départ, tout le monde était d'accord qu'il fallait réformer le pays, lorsqu'on a commencé à réformer le pays, certains, malheureusement ou heureusement, ont vu leurs intérêts de plus en plus dérangés. Aujourd'hui, donc, vous et moi, nous savons qu'il y a certains acteurs politiques qui tirent les ficelles pour inciter les populations à la réforme, quel que soit ce qui est fait en Guinée, que ce soit du bien ou qui n'est pas bien, eux, ils incitent quand même les populations
à la
révolte.
Mais M. Diallo, la quarantaine de morts, les personnes qui sont mortes.
Laissez-moi aller au bout. Je vous ai laissé aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Donc, premièrement, je condamne l'attitude des acteurs politiques aujourd'hui qui ne contribue pas à l'apaisement dans notre pays. Pour le maintien de l'ordre, comme je vous dis tout à l'heure, les agents sur le terrain pour maintenir de l'ordre, vous savez c'est quoi le ratio? Dans un quartier comme, prenons le secteur de Mandé tout simplement, pour 1000 habitants, il y a 3 policiers. Ça, c'est le ratio. Donc, je dis encore une fois, et c'est une proposition que je ne cesse de faire depuis l'arrivée du CNRD, mettez les moyens au service des forces de sécurité, la police et la gendarmerie. Mettre les moyens, c'est quoi? C'est recruter suffisamment d'agents de sécurité, c'est les équiper et les former pour le maintien de l'ordre. Si vous avez un ratio de 1000 citoyens pour 3 policiers dans un secteur comme celui qui est Bambito, comment voulez-vous qu'ils maintiennent de l'ordre? Donc, encore une fois, je condamne les tueries. Je m'incline à la mémoire de ceux qui sont décédés. Je propose aux autorités d'ouvrir des enquêtes pour pouvoir identifier ceux qui ont tiré à balles réelles et prendre les actions judiciaires qui s'imposent pour cela. Mais je suggère surtout à ce qu'on mette les moyens au service de la sécurité pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse garantir un maintien de l'ordre qui respecte les règles de l'art en la matière. Voilà.
Dans ce cas.
Par contre, oui. Encore une fois, monsieur Bar,
oui.
C'est important de le dire. À l'arrivée du CNRD au pouvoir, ils ont tendu le bras à tout le monde. Tout le monde. On a invité tout le monde autour de la table. Il y a certains qui ont joué de l'objection depuis le départ et qui n'ont jamais voulu attraper la main tendue parce que tout simplement, ils mettent leurs intérêts individuels et personnels au-dessus des intérêts de la réforme et des intérêts du pays.
Mais bon, ça quand même c'est votre... Monsieur Diallo, ça quand même c'est votre... C'est votre jugement.
À sortir manifester, alors que nous sommes en train de travailler sur des réformes importantes pour aller au bout de cette transition de manière apaisée.
D'accord.
Voilà ce que je pouvais dire.
D'accord. Merci. Justement, parlant de la question de sécurité, êtes-vous d'accord avec moi, avec une quarantaine de morts, au niveau de la question de la sécurité, c'est un échec?
Je ne dirais pas que c'est un échec, monsieur Barr. Et pourquoi je ne dis pas que c'est un échec? Parce que je compare toujours par rapport à d'où nous venons. Vous comprenez? En matière de sécurité, c'est vrai qu'il y a un travail fondamental à faire en matière de dotation de personnel pour la police et la gendarmerie, en matière de formation et en matière d'équipement. Je remarque dans le budget de l'État que c'est le budget de l'armée en tant que tel qui ne cesse d'augmenter alors que celui de la police ne cesse de diminuer. Ce n'est pas normal. Comprenez? Donc, pour un pays comme la Guinée qui n'est pas en guerre, ce n'est pas normal que le budget de l'armée ne cesse d'augmenter, le budget de la police ne cesse d'augmenter.
Donc, ce n'est pas un échec.
Donc, il y a des mesures correctives à prendre. Mais ce n'est pas tout. Quel est aujourd'hui l'élément qui assure l'équilibre en matière de respect des droits de l'homme? C'est la justice. Donc, j'ai bien apprécié la déclaration du Premier ministre, M. Baouri, récemment, lorsqu'il a demandé à ce qu'il y ait des enquêtes sur les récentes tueries et qu'on identifie les responsables. Mais il faut toujours rajouter la même condamnation envers ceux qui incitent les jeunes à sortir aujourd'hui manifester, tout en sachant les réalités du pays. Quand je parle de réalité, c'est les réalités non seulement en termes de réformes, mais aussi les réalités depuis l'explosion du dépôt des hydrocarbures.
D'accord.
Parce que la question qu'il faut se poser, et qu'il faut poser à ces acteurs-là, si c'était eux aujourd'hui qui étaient au pouvoir, avec l'explosion du dépôt d'hydrocarbures, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Voilà une très bonne question.
D'accord, allons sur un autre aspect, parce qu'on a un contraint de temps, il nous reste 5 minutes, et je me rends compte que je pense que je reviendrai vers vous, parce que pour qu'on puisse aborder un certain nombre de questions de façon un peu plus pointue. Et je voudrais parler des médias. Aujourd'hui, les médias sont brouillés en Guinée. Aujourd'hui, vous avez même des entreprises qui sont en train de remercier les employés parmi les médias. Et tout ça, à travers la gestion du CNRD, parce que ça ne va pas. Je ne sais pas si de ce côté-là aussi, si ce sont ceux qui ne sont pas d'accord avec la réforme du CNRD, ou bien quelle explication, vous, selon vous, on peut donner à ce sujet.
Alors,
ça fait aussi, hein, au niveau aussi, qu'il y a eu aussi l'interruption de l'Internet, hein, à un certain temps,
alors,
en Guinée.
Alors, ça c'est derrière nous. L'Internet c'est derrière nous. La question concernant les médias, c'est très important. Monsieur Ba, et je pense que l'ensemble de vos auditeurs aussi le savent, il y a une année, nous avons observé un phénomène très étrange dans notre pays. Ce phénomène, c'est quoi? C'est le fait que, effectivement, on a commencé à voir un nouveau type de gangstérisme qui s'intéresse à aller faire des casses dans les prisons du pays. Donc, on a observé ça à Koya, dans la région forestière, Sigiri, etc., etc., jusqu'à la maison centrale dans notre pays. Hein? Ça, c'est un phénomène extrêmement dangereux où on a extrait un ancien président de la République et ses proches de la prison. C'est des acteurs qui sont aujourd'hui des acteurs fondamentaux dans le procès des crimes contre l'humanité de septembre 2009, d'accord? Donc, face à ces situations, face à une situation pareille, monsieur Ba, et là je vous demande à vous et à l'ensemble de vos auditeurs, qu'est-ce que vous attendez d'un chef de l'État? Moi, ce que j'attends d'un chef de l'État, c'est tout simplement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour reprendre les choses en main. Alors, à l'époque, juste après cette situation à la maison centrale, le président de la République a pris des mesures conservatoires très importantes sous le sceau de la sécurité nationale. Donc, pourquoi je parle de sécurité nationale ici? C'est parce que les médias en Guinée, malheureusement, n'ont pas encore acquis une très bonne connaissance ou formation en matière de comment communiquer lorsqu'il y a des questions de sécurité nationale. Et c'est sur cette question-là que beaucoup de médias ont des difficultés, ont des problèmes dans notre pays. Le journaliste, par définition et par nature, est un être curieux qui veut savoir effectivement les dessous de toutes les affaires. Mais lorsqu'on parle de questions de sécurité nationale, le journaliste doit comprendre que c'est des sujets qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. D'accord? Alors, en Guinée, pour l'espace, pour cet espace de temps, après la casse, jusque maintenant, si certains médias sont encore restreints, c'est tout simplement parce que le gouvernement est au plus haut sommet. La présidence a émis une question de sécurité nationale et durant cette période, tant que les autorités n'ont pas repris les choses en main, il y a certains sujets et certaines manières, il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder sur la place publique de manière fantaisiste, qu'on ne peut pas polémiquer là-dessus. Donc, pour la question des médias, donc, je m'en vais finalement sur ce point-là vous dire que si aujourd'hui certains médias ont des difficultés, c'est uniquement pour la question de sécurité nationale.
Uniquement pour la question de sécurité.
Aussitôt que la situation sera reprise en main, je vais dire les choses vont revenir à la normale. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, le reporter sans frontières avait effectivement donné 20 points d'avancée à la Guinée en matière de respect de la liberté d'expression.
D'accord, Monsieur Diallo.
Simplement depuis la question de sécurité nationale que nous avons cette situation, et aussi que cette question sera, les choses seront reprises en main, nous reviendrons à la normale.
D'accord, si c'est une question de sécurité nationale, pour une raison précise, pourquoi les autorités guinéennes ne fermeraient-elles pas officiellement un tel média? Ou bien, pourquoi ne prendrait pas une mesure concrète? Parce qu'il y a eu brouillage et ils n'ont pas dit pourquoi il y a eu brouillage. D'ailleurs, Les médias n'ont même pas d'interlocuteur. Vous entendez les journalistes, c'est-à-dire qu'on interpelle, on demande qu'est-ce qui se passe. Non, 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 attendez, attendez. Parce que les journalistes demandent, disent, est-ce qu'il y a un journaliste qui a manqué à sa responsabilité? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a... Ils sont prêts. Il y a l'ARAC qui est là pour travailler avec les médias s'il y a un manquement à la déontologie. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas une procédure. On a eu l'impression que on est venu brouiller et puis on garde le silence.
C'est-à-dire qu'il y a eu une incompréhension entre le monde des médias et effectivement les autorités en place. C'est une incompréhension.
Non, pour moi, ce n'est pas une incompréhension, monsieur Diallo.
Le CNRD, mm-hmm. depuis qu'ils sont arrivés, ils ont mis beaucoup d'avantages au service des médias dans notre pays. Que ce soit à la RTG, que ce soit à la maison de la presse, que ce soit à la professionnalisation, tous les avantages imaginables, toutes les conditions nécessaires pour que la presse puisse exercer correctement.
Attendez.
Ils ont mis ça au service de la presse.
Ah bon?
Par contre, lorsqu'il y a des questions de sécurité nationale,
oui.
vous comprenez bien qu'on ne peut pas polémiquer là-dessus. Donc, c'est sur cette question-là simplement qu'il y a eu ce malentendu. Et
D'accord.
effectivement, moi, j'avais suggéré, j'étais sur le terrain en Guinée, j'avais suggéré dans les médias, j'avais suggéré aux autorités, effectivement, d'organiser une sorte de déjeuner de presse pour décrisper la situation afin de pouvoir répondre à huis clos, s'il le faut, aux attentes des médias et leur expliquer que peut-être que cette question la prendra fin à un certain délai. Mais lorsqu'il est question de sécurité nationale, on ne polémique pas. Moi, j'étais en Guinée,
D'accord.
je n'ai senti aucune restriction à ma liberté d'expression. J'avais accès à tous les médias, y compris les médias publics. J'ai communiqué régulièrement. Mais sur les questions de sécurité nationale, il faut faire très attention et la Guinée ne fait pas exception à cette règle.
Bien. Monsieur Diallo, merci d'être passé dans cette émission. Je pense que je viendrai vers vous pour qu'on puisse peut-être programmer d'autres émissions. Voilà, pour voir justement comment aborder ces sujets de façon, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus pointue.
Avec plaisir. Le plaisir fut le mien. Encore une fois, je salue l'ensemble de vos auditeurs et à la prochaine.
À la prochaine. Merci beaucoup. Et voilà, Imam Zulter, gardez l'écoute. Hein. Je vous reviens dans un instant, ce sera dans la deuxième partie, avec Diana Diallo, donc avec qui nous allons parler de la gestion de la transition guinéenne. Vous êtes sur Africa Midi.
Pour l'instant, c'est ce qu'on n'en a pas. Nous avons voir que le nouveau président de la CENI, pour ceux qui connaissent le paysage politique en Guinée, c'est un proche du président Alpha Condé. Et même s'il était loin, parce qu'on a vu que même les commissaires qui sont venus pour le compte de l'opposition aujourd'hui sont réduits au silence. Nous avons la vice-présidente Hadia Bia, qui est franchement l'une des plus proches collaboratrices du président. C'est lui qui l'a amené là-bas et n'a rien dit. Même quand il y a
Je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce que tous les chefs d'État de la sous-région, de la CEDEAO, sont influencés par la France?
Je n'ai pas parlé de tous les États. Je vous ai signé deux présidents. Je vous ai précisé deux présidents, Ouattara et Macky Sall.
Justement, pourquoi je pose la question? Il n'y a pas que Ouattara et Macky Sall dans la sous-région.
Deux présidents, c'est les deux pays qui sont le plus en avant au niveau de la défense, d'intérêt de la France-Afrique. Ça ne veut pas dire que ce sont les deux seuls pays, mais en tout cas, s'il fallait faire une échelle en termes de soumission par rapport à la France, on a les deux pays champions.
Mais en même temps, il ne s'agit pas du tout d'empiéter ou de ne pas respecter la volonté du peuple togolais. Nous voulons que la volonté du peuple togolais soit respectée et en même temps, nous voulons que la solution soit une solution digne qui n'apporte aucune humiliation à personne. Mais cela dépend aussi considérablement de la manière dont le régime lui-même se comporte face à cette contestation historique qui traverse le pays en ce moment.
Parce que ce qui s'est passé en Libye avant 2011, la Libye avait un président qui était bien, qui était panafricaniste et tout ça. Et nous savons très bien aussi que cette intervention qui a été, il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit qu'il fallait évincer Radhafi, mais c'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé.
Voilà. Donc je suis menacé. Par rapport à la déclaration, déclaration d'hier du président de la République, nous avons été surpris, n'est-ce pas, celui qui est le père de la nation. Comment se fait-il que lui n'était pas là? Après deux semaines de grève qui a causé, n'est-ce pas, des dégâts énormes, au lieu de nous appeler, n'est-ce pas, et discuter avec nous, ils nous traitent, n'est-ce pas, de sauvages, n'est-ce pas, de bêtes sauvages, n'est-ce pas, de rebelles. Au lieu de nous appeler. Donc, ces rebelles-là constituent aujourd'hui l'ensemble des anciens d'Afrique de Guinée, ça ne travaille pas en Guinée, et ils disent que nous sommes des rebelles. Ils invitent les centrales qui n'ont aucune représentativité au niveau, n'est-ce pas, de la base, surtout de l'éducation. Qu'une possibilité d'aller voter à Kindia pour ces élections locales.
D'accord.
Donc ça aussi, ça a été un jeu qui a été néfaste pour ces élections. La dernière des choses, la plus grave, c'est ceux qui sont chargés de la sécurisation du vote, du SEL, l'unité spéciale chargée des élections.